C'était le journal d'Éléonore Guérin et voici Pascal Paradou. Bonjour.
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 La fête commence.
Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sans modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Pascal Paradou.
Je pense que l'art contemporain est difficile, abscon, élitiste, inaccessible, du grand n'importe quoi. Enfin bref, c'est fou ce qu'on en raconte. Eh bien, celui-là se trompe. La preuve, l'épreuve. À Lyon, la Biennale d'art contemporain devient un rendez-vous de plus en plus populaire avec pour cette 10e édition un thème, le spectacle du quotidien. Ce sera le reportage de Muriel Malouf. Ensuite, nous recevrons le sculpteur Xavier Veillant. C'est lui qui expose à Versailles en ce moment, dans le château et dans les jardins dessinés par le nôtre. Il y a un mobile géant, un carrosse futuriste violet, une galerie de statues d'architectes, un jet d'eau de 100 mètres de haut, une lune pixelisée. Enfin bref, c'est beau, c'est jouissif et cela permet de regarder le château du Roi Soleil sous des angles différents. Donc, promenade dans une petite demi-heure. Après, un détour par Limoges, ou plus exactement, c'est Limoges et son festival des francophonies qui vient à nous par l'intermédiaire de sa directrice, Marie-Agnès Sevestre. Voilà, vous savez tout ou presque, sachant que le téléphone aujourd'hui sonne à...
Santiago du Chili.
Bonjour Claire Martin, à Santiago où se déroule un festival de biciculture, c'est de la culture ça?
Eh bien c'est d'abord du vélo mais c'est aussi de la culture. En fait pendant tout le mois jusqu'à mi-octobre à peu près, le festival présente une exposition de 370 œuvres d'art autour du vélo. C'est-à-dire qu'on voit des empilements de roues agencées, des tableaux avec des bicyclettes de partout. Et c'est une exposition très importante puisque même la ministre de la Culture a fait le déplacement lors de l'inauguration. Elle se trouve, cette exposition, dans une des stations de métro les plus fréquentées de Santiago. Plus de 50 000 personnes passent par là tous les jours. Elle s'appelle Quinta Normal. Et c'est la première fois que le festival reçoit autant d'œuvres. Ça va donc de la chanson, du poème, de la peinture, de la sculpture, à la photo et au collage. Il y a tout et tout autour de la bicyclette. Et ces œuvres ont été créées spécialement pour le festival. Ce sont en fait des centaines d'artistes chiliens qui les ont envoyés des quatre coins du Chili et d'ailleurs même de l'étranger. C'est pas pour le prix qu'ils ont fait ça, la récompense, puisque c'était cette année un vélo pliable, mais c'est surtout parce qu'ils adhèrent à l'idée du festival, à la promotion de la bicyclette.
Une exposition, ça suffit pour sensibiliser les Chiliens au vélo?
Non, c'est pour ça qu'en plus de l'exposition, il y a deux gros événements. Donc il y en a un qui a déjà eu lieu, c'était ce mardi, c'était pour la journée mondiale sans voiture. Ça a eu d'ailleurs pas mal de succès, malgré le froid et le mauvais temps, parce qu'il pleuviotait un peu. Et c'était la première fois d'ailleurs que la capitale fêtait cette journée mondiale sans voiture. Donc des rues du centre-ville autour de la Plaza de Armas, la place principale, ont été bloquées à la circulation. Et il y a eu toutes sortes d'activités, des démonstrations de freestyle, un grand concert avec des artistes connus au Chili et qui utilisent la bicyclette comme moyen de transport. D'ici trois semaines, donc, il y a une autre journée pour fêter la bicyclette. Elle aura lieu cette fois dans le parc forestal. C'est un parc, un grand parc, en plein centre de Santiago. Il y aura des cliniques de vélo où on pourra apprendre à réparer son vélo ou apprendre à en faire d'ailleurs. Il y aura aussi une exposition de vieilles bicyclettes et surtout des bicyclettes bizarres. C'est-à-dire, c'est des bicyclettes inventées, mais qui roulent, et il y en a de plus en plus, en fait, qui circulent dans Santiago.
Donc, le Chili va devenir la Hollande de l'Amérique latine.
Ce serait bien, ce serait souhaitable, mais c'est pas encore le cas. Au Chili, en fait, le vélo, c'est pas un moyen de transport. C'est mal vu comme moyen de transport. Celui qui utilise sa bicyclette pour se déplacer, basiquement, c'est celui qui a pas de moyens pour se payer une voiture. C'est le pauvre. Donc, on voit quand même de plus en plus de gens de la classe moyenne ou aisée faire de la bicyclette, mais en fait, ils la sortent surtout pour la balade du dimanche. Ils n'ont pas encore le réflexe de l'utiliser comme un moyen de transport. Donc, l'idée du festival Biciculture, c'est justement de passer par l'art et par les artistes pour transformer la société. Pour faire des villes plus humaines, moins polluées, non pas construites pour les voitures, mais aussi pour les bicyclettes. Et des villes où on puisse entendre la voix humaine et pas seulement le moteur des voitures, comme le dit sa directrice Amaryllis Horta, j'aime beaucoup cette phrase. Donc chaque année, le festival grossit et il faut donc espérer que les mentalités changent.
En espérant que vous soyez entendus. Merci Claire Martin.
trio Ifri Kiya sur RFI. Il sera ce soir en concert à Limoges pour la soirée d'ouverture des Francophonies en Limousin. On y vient.
C'est pas nous qui avons fait la révolution. C'est la révolution qui nous a fait.
Culture vive, Pascal Paradou.
Cela fait 26 ans que la bonne ville de Limoges, c'est le cœur de la France profonde, accueille les Francophonies, un festival de théâtre, de danse et de musique, avec cette année une belle affiche, Wajdi Mouawad, celui-là même qui a fait les beaux jours du Festival d'Avignon. Bonjour Marie-Agnès Sevestre.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des Francophonies en Limousin. Alors bien sûr, on va parler de spectacle, mais je voudrais commencer par une question vulgaire, causée gros sous. Le ministère des Affaires étrangères a-t-il supprimé ou non sa subvention ?
Ah mais oui, complètement. Et sans,
vous me dites
sans...
ça comme ça, sur un ton aussi badin.
Oui, parce qu'en fait, malheureusement, ça s'est passé d'une façon assez sèche et comme vous dites, grossièrement radicale. Il n'y a plus d'intervention, pour l'instant, du ministère des Affaires étrangères, qui s'est entièrement retiré de toute manifestation culturelle sur le sol français. Donc j'imagine que ce n'est pas le Festival des Francophonies en tant que tel qui est châtié, mais c'est une vraie affirmation d'un désengagement.
C'était 15% du budget quand même de votre festival, ce qui n'est pas rien.
Oui, enfin je dirais même que sur le plan du budget artistique, on est plus proche des 20%. Le festival, en effet, est aidé par les Affaires étrangères uniquement sur la partie artistique. C'est le ministère de la Culture qui aide à son fonctionnement. Donc c'est un recul très sensible pour nous dans la programmation.
Mais est-ce que c'est vraiment compréhensible ? Parce que Limoges, c'est quand même une plaque tournante de la francophonie. C'est pas une fiction à Limoges, la francophonie pendant le festival.
Écoutez, je ne suis pas là pour justifier ces décisions. Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit d'une mesure plus large qui va avec le désengagement dans les centres culturels français, dans la politique de coopération, dans les invitations de chercheurs, d'artistes, de toute personnalité, disons, du monde de la pensée, du monde de la création. La France souhaite probablement faire ses preuves sur d'autres terrains. C'est dommage, celui-là lui était peu contesté et avait des résultats assez reconnus internationalement. Donc, je ne peux que le regretter. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire revenir cette manne. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Il y a eu des interventions, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, des élus. Mais je pense qu'il y a vraiment des considérations internes aux affaires étrangères en ce moment qui dépassent un peu tout entendement.
Pourtant, cette année, il y avait une belle affiche. Avec Wajdi Mouawad.
Oui, alors n'en parlons pas au passé déjà. Il y a une belle affiche, un peu raccourcie, car comme je vous le disais, nous sommes atteints tout à fait au porte-monnaie, donc 3 jours de moins. Et Wajdi Mouawad, je dirais, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est un artiste qui a été largement invité et soutenu au festival depuis 10-12 ans.
Oui, c'est une question de fidélité, hein. C'est pas un coup comme ça.
Oui.
Tout d'un coup, vous récupérez le spectacle créé au Festival
voilà.
d'Avignon. En fait, vous l'avez presque découvert, Mouawad.
Oh, qui a découvert Wajdi ? Il y a eu beaucoup de monde,
québécois.
Mais en particulier le Festival des Francophonies qui l'a accueilli en tant qu'auteur en résidence dans ses tout premiers balbutiements d'écrivain. Donc on peut dire que oui, on l'a accompagné depuis longtemps. Notre cœur de métier, je dirais, c'est d'accueillir et d'accompagner des jeunes artistes, ce qu'il était dans les années 90. Donc nous travaillons avec les Wajdi Mouawad des années 2010 maintenant.
Alors qui sont-ils ?
Ah, il y a beaucoup de gens. On ne peut effectivement pas tous les accueillir. Je dirais que dans le domaine de la danse contemporaine en particulier, les talents percent de façon assez évidente. Et par ailleurs, on peut dire que le Congo, que ce soit du côté du théâtre ou de la danse, nous a réservé quelques belles surprises. Si on pense à Dieudonné Nyanguna, par exemple. Mais je suis en ce moment en train d'accompagner les répétitions d'un jeune chorégraphe qui a un nom assez étonnant, De La Vallée. De la vallée Bidiéphono. Il vient de Brazzaville aussi et il a été repéré par Culture France déjà et récompensé par le prix du concours de Culture France que vous connaissez avec Afrique en création. Et cette année, il est vraiment là en train d'exploser. Il a fait un très très beau parcours avec un metteur en scène français qui s'appelle David Bobet, en créant la chorégraphie de son spectacle. Et je dois dire que j'ai déjà beaucoup de professionnels qui se sont annoncés pour, et de journalistes pour venir voir sa première œuvre, je dirais, un peu forte, un peu personnelle.
Donc dans ces cas-là, Limoges, c'est la première marche comme ça d'une carrière ou d'une reconnaissance internationale.
On a, disons, toute cette partie-là, ce sont des premières œuvres et puis des talents plus repérés.
Oui, très repérés, parce qu'on voit par exemple l'ancien administrateur de la Comédie-Française, Marcel Bozonnet, qui s'empare d'un grand cycle, le roman de Baybar. Est-ce que ça donne une tonalité pour cette 26e édition des francophonies du Limousin, ce spectacle-là? Parce que Wajdi Mouawad, c'est quand même le grand théâtre narratif, c'est le théâtre des légendes contemporaines. Baybar, ce sont les légendes plus anciennes, plus antiques. Est-ce que ça fait un fil conducteur de cette édition?
Oui, il y a plusieurs aspects qui cohabitent dans le festival, mais celui-ci est assez important, avec le travail aussi de Hassan Kouyaté, du Burkina Faso, qui travaille avec un auteur suisse, René Zand, sur une adaptation de l'Iliade. Donc nous sommes là en plein cœur des grands mythes fondateurs de la culture européenne. Et puis un autre Burkinabé qui explore là quelque chose qui nous appartient de manière plus précise, les liaisons dangereuses, avec la version de Heiner Müller, Quartet, joué par 4 acteurs africains. Donc voilà, on voit cohabiter dans le festival à la fois des grands noms de la littérature, des grands noms du théâtre, et puis des jeunes talents qui nous sont très précieux aussi.
Alors en feuilletant le programme, j'ai vu aussi qu'il y avait Novarina, auteur contemporain français à la langue si particulière et si lyrique d'une certaine façon. Mais alors, dans une mise en scène très étrange, parce que ce sont des Américains. Vous avez une conception assez large de la francophonie, Marie-Ève Sevestre, je trouve.
Oui, mais alors la francophonie, d'abord, c'est partout où il y a des artistes, enfin, de mon point de vue, qui travaillent autour de la langue française. Il se trouve que le Théâtre du Rêve à Atlanta travaille en français à défendre des auteurs français. Donc c'est un projet avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Valérie Warnot et qui a donc choisi de confronter la langue de Novarina à sa traduction. Et donc ce travail, puisqu'il s'agit d'un travail en cours, un atelier, sera présenté en français et en anglais. La francophonie, c'est ça, c'est ce frottement aussi des significations. Et je pense que la poésie de la langue de Novarina va générer certainement des choses assez troublantes en américain.
En américain, oui. Donc vous pensez que la francophonie, en fait, est sans frontières. On écoutait tout à l'heure, juste avant que commence cette petite conversation, Marie-Agnès Sevestre, ce groupe, le trio Ifri Kiya. Là aussi, on est dans des drôles de frottements, puisque c'était des rythmes arabo-andalous, avec un percussionniste qui a fondé, lui, les tambours de Brazza. C'est le monde, en fait. La francophonie, c'est la mondialisation?
C'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est la mondialisation de ceux qui justement ne sont pas dans la mondialisation. Curieusement, c'est un paradoxe, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près possible de paroles personnelles, mais qui n'hésitent pas à la partager avec d'autres artistes venant de loin, alors à travers la langue française, puisque c'est notre sujet, il faut bien avoir un angle, mais je pense qu'effectivement, cette francophonie-là, actuellement, est la seule à ne pas avoir de racines désagréables.
Vous croyez donc au français, j'ai envie de mettre un S, comme vecteur d'échange, comme culture de partage?
Ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est tous les endroits où la langue se confronte à une altérité. Et l'art, c'est quand même essentiellement de la création d'altérité. Donc voilà, on est au fond, au cœur de notre sujet.
Merci Marie-Agnès Sevestre. Et bon festival avec plein de surprises, si
merci,
j'ai bien compris.
Bon,
les francophonies en Limousin se déroulent jusqu'au 3 octobre. Et pour le programme, vous allez soit sur le site de RFI à l'adresse de l'émission ou sur www.lesfrancophoniesenunseulmot.com. Merci beaucoup.
Bonjour, vous faites quoi?
J'achète un os.
Un os qui s'appelle une sculpture si l'on est dans une exposition d'art contemporain, et c'est le cas de Muriel Malouf qui s'est rendue cette semaine à la Biennale d'art contemporain de Lyon où se retrouvent exposés plus de 80 artistes internationaux.
Sous la dynastie Liao, Xi Jing se trouvait à Datong dans la province du Shaanxi. Au cours de cette période, Xi Jing fut séparé en plusieurs petites parties. Plus tard, le peuple Xi Jing se rendit dans la province de Kinghua au Vietnam. Le territoire rétrécit et sa population déclina. Mais le peuple Xi Jing fit progresser la technologie de l'agriculture et inventa des méthodes de culture du riz.
Imaginaire idéal, utopie, ville virtuelle comme Xi Jing, supposée se trouver en Chine, voilà autant de thématiques qui reviennent dans la 10e Biennale d'art contemporain à Lyon. Thierry Raspail, directeur artistique de la Biennale, qui s'articule autour d'un thème bien précis.
Il s'agit du spectacle du quotidien. Il y aurait comme ça dans la société deux univers. Il y aurait l'univers du visible, le spectacle avec les paillettes, les choses que l'on regarde. Et puis il y a autre chose, l'ordinaire, qui serait un univers extrêmement difficile à vivre. Et ces deux choses seraient totalement antagonistes. Or, il se fait que dans l'histoire de l'art récent, dans les 30 dernières années, notamment en dehors de l'Occident, en dehors de l'axe Europe-États-Unis, de nombreux artistes s'interrogent sur cette question-là, prennent comme point de départ par la question du quotidien, pour repenser ce quotidien, pour faire de nouvelles propositions, proposer de nouvelles pensées, poétiques mais aussi politiques quelquefois.
Direction justement l'installation du collectif Un Nous, bien dans l'esprit de la Biennale, rencontre avec l'un des artistes.
Moi, je suis Patrick Pinon.
Et là, on est en face d'une maquette. On entend d'ailleurs les bruits de la rue, puisqu'on est dans un espace urbain. Il s'agit de quoi?
Alors, c'est une maquette qui est un peu une maquette utopique d'une fausse ville irréelle où on a joué sur les décalages entre les hauteurs, entre les échelles. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites maisons avec des buildings qui peuvent être 10 fois plus grands qu'une maison. Et on essaie de jouer sur un rapport comme ça, un peu finalement impossible, improbable. C'est une sorte de ville improbable.
C'est la guerre, là?
Là, c'est un avion qui décolle.
Et c'est une ville de notre époque?
Ça pourrait être une ville dans 40 ans.
Le cauchemar.
Hein. Pas le cauchemar, non. Mais est-ce que ça peut donner la folie humaine, finalement?
Changement d'ambiance. Latifa Echakch, plasticienne marocaine, ayant grandi en France, s'est appropriée un matériau pauvre, faisant justement partie d'un quotidien typiquement urbain. Visite.
C'est une pièce en linogravure. C'est donc un linoléum d'habitation de qualité très populaire qui est disposé au sol. Donc c'est des dalles qui sont adaptées plus ou moins à l'espace. Et on peut marcher dessus sans se rendre compte au fait qu'on est en train de marcher sur une pièce, qu'on dirait vraiment un linoléum très basique, comme ça, blanc moucheté de gris. Et au fait, quand on est dessus, on peut se rendre compte qu'il y a des dessins qui sont, des dessins qui sont en relief.
En quoi cette œuvre vous est personnelle?
Quand j'ai pris connaissance de la linogravure, j'étais en école d'art et ça m'avait étonné de savoir qu'on pouvait utiliser du lino pour graver, parce que moi je le connaissais, parce que j'ai grandi en appartement et dans un quartier, donc je me disais, du coup ça devient une matière pour les beaux-arts, un matériau pour les beaux-arts. Et après j'ai vu que c'était pas exactement le même lino, et donc ça m'a intéressé de retravailler là-dessus.
La Biennale de Lyon se déroule jusqu'au 3 janvier avec donc quelques 80 artistes, dont ceux rencontrés par Muriel Malouf et un thème, le spectacle du quotidien. Après les infos, on continue de parler d'art contemporain, mais dans un autre cadre, celui du château de Versailles, où Xavier Veillant expose une série de sculptures spécialement conçues pour le lieu, on dit in situ. Culture vive à suivre.